être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine qu'Arlequin, sachant bien noter sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils.
Bienvenue à l'émission Chez Betty, femme d'un jour, femme toujours, une émission dédiée à la femme, son histoire, son actualité, ses petites manies, son impertinence, d'hier à demain, de l'amour à l'humour, de récits, de sujets, d'invités, d'artistes. Et aujourd'hui, je vais commencer l'émission toute seule, Coco va nous rejoindre quelques minutes après avoir conduit son fils. Je dis bonjour à Angèle.
Bonjour.
Ça va aujourd'hui ?
Ça va.
On écoutera plein de musique et on va enchaîner directement avec l'actualité féminine. Nous allons commencer l'actualité par un fait refoulé à cause de son chien d'assistance. Elle alerte sur les réseaux sociaux. Une jeune femme raconte sur Twitter comment il peut être compliqué pour des personnes atteintes d'handicap d'accomplir des actes quotidiens comme faire ses courses. Le vendredi 11 septembre, une jeune femme du nom de Liel se rend dans un magasin pour y faire ses courses. Épileptique, ne supportant pas les médicaments chimiques, elle est accompagnée d'Owen, son bosseron chien d'assistance. L'animal est formé pour détecter une crise avant qu'elle n'arrive. Ces chiens, ces animaux, sentent la crise arriver et permettre à leur maître de se mettre à l'abri. Ils peuvent éventuellement chercher du secours ou tenter de les apaiser. Problème, le vigile refuse de les laisser déambuler dans le magasin. La jeune femme présente sa carte officielle, le directeur du magasin intervient, il laisse Liel faire ses courses tout en la suivant de très près, comme s'il craignait que son chien ne fasse des bêtises. Face à cette contrariété et à l'humiliation, la jeune femme fait une crise d'épilepsie peu après être sortie du magasin. Elle décide de raconter son histoire sur Twitter pour dénoncer une situation qu'elle juge fréquente pour les personnes de son cas. La loi numéro 87-588 du 30 juillet 1987 stipule que l'accès aux transports et aux lieux ouverts au public est autorisé aux chiens guides d'aveugles ou d'assistance. De plus, la présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner la facturation supplémentaire dans l'accès des services et prestations. La personne en charge de la sécurité ne semblait pas au courant de cette réglementation. Pourtant, des histoires malheureuses comme celle-ci font plusieurs fois par an la une des médias. On se souvient des cas de personnes malvoyantes refoulées de grandes surfaces ou par un restaurateur. Espérons que l'histoire de Liel permettra de diffuser l'information sur les droits des personnes en situation de handicap. Ruth Bader Ginsburg, juge iconique des droits des femmes, est morte il y a quelques jours. Suite lundi 14 septembre, pourquoi cet appel aux tenues provocantes ? Donc, avec ces fortes chaleurs, les tenues deviennent plus légères aux grandes dames de nombreux établissements scolaires. Une mobilisation s'est organisée pour protester contre le règlement intérieur jugé injuste. C'est un mouvement né d'une mobilisation spontanée de jeunes filles et de quelques jeunes garçons. Le 14 septembre regroupe les personnes qui souhaitent militer contre les jugements sexistes faits sur les tenues, particulièrement des filles. Tout est parti d'un appel sur TikTok relayé par de nombreuses personnalités publiques, notamment Marlène Schiappa, et des associations féministes comme Nous Toutes, collectif engagé contre toute forme de sexisme. L'Église aime vos enfants tels qu'ils sont. Voici le message du pape François. Le 16 septembre dernier, le pape François s'est brièvement entretenu avec Mara Grassi, l'une des responsables de l'association des chrétiens LGBT, donc à la suite d'une audition générale. Mercredi 16 septembre, le pape François a échangé avec une quarantaine de parents d'enfants LGBT de l'association Tanda di Giotto. Cette dernière, fondée en 1818 à l'initiative de Don David Esposito, un prêtre aujourd'hui décédé, souhaite élargir les communautés chrétiennes aux personnes homosexuelles et leur proposer un soutien et un accueil au sein de l'Église. Le pontife s'est ensuite entretenu avec Maria Grassi, l'une des responsables de l'association. Cette mère a parlé de son fils de 40 ans qui a quitté l'Église parce qu'il ne se sentait pas accueilli en raison de son homosexualité. Le pape François, lui, a alors déclaré que l'Église aime vos enfants tels qu'ils sont, car ils sont tous enfants de Dieu et l'Église doit aussi les aimer tels qu'ils sont, selon plusieurs journaux italiens reliés par la croix. Dans un article de la Repubblica, la militante a ajouté « Je voulais dire au pape que ce que nous avons compris, c'est que l'Église doit faire en sorte que beaucoup d'autres parents, comme moi, le comprennent afin qu'ils ne souffrent pas comme j'ai souffert. » Ensuite, donc 16 et 14 ans de prison pour les parents de Gabin, morts de faim. Les parents du petit Gabin, accusés de privation de soins ou d'aliments de survie de mort d'un mineur de 15 ans par ascendant ou par personne ayant autorité, ont été condamnés à 16 et 14 ans de prison. Ce vendredi 18 septembre, les parents du petit Gabin, ont été condamnés en appel à 16 ans de prison pour la mère et 14 pour le père. Ces peines sont légèrement inférieures aux 17 ans de réclusion dont avaient chacun écopé en fin 2019. En juin 2013, Gabin était mort de faim et de soif à l'âge de 22 mois. Il ne pesait alors que 5,825 kilos, soit le poids d'un enfant âgé de 3 mois. Une enquête avait révélé à l'état de saleté et de maigreur extrême de l'enfant dont on pouvait compter les côtes. Le petit garçon souffrait de cachexie, c'est-à-dire une disparition des tissus graisseux et des muscles causés par une déshydratation, et une dénutrition extrême qui affaiblissait profondément l'organisme. Le jour du décès de l'enfant, son père l'avait amené aux urgences, ne le voyait plus, son ventre bougeait. Le médecin urgentiste tentait alors un massage cardiaque, mais l'enfant était déjà mort. Le médecin avouait alors se rappeler d'avoir été frappé par la maigreur de l'enfant, mais aussi par l'indifférence des parents. Après le décès de Gabin, ses parents séparés, mais vivant toujours sur le même toit, avaient reconnu des manquements, mais niaient toute responsabilité. Plus tard, Céline Vialette, 35 ans, et Édouard Ruot, 41 ans, étaient accusés de privation de soins et d'aliments suivis de mort d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Selon la présidente de la cour d'assises d'appel de la Haute-Vienne, Maryse Lemaine-Régnier, la mère du petit garçon a fait du chemin au sujet de sa responsabilité depuis son incarcération. Depuis 18 mois que je suis incarcérée, je travaille avec des psychologues pour comprendre ce qui s'est passé. Je n'étais pas bien à cette époque, il n'y avait plus aucune communication entre nous, je pense qu'on l'a beaucoup oublié. Nourrir un enfant, c'est ce qu'attend de tout parent, c'est la base. Cependant, a affirmé Maître Ivre Crespin, avocat de l'association Enfants Bleus Enfance Maltraitée. Seule partie civile lors de la plaidoirie. Selon lui, l'enfant est mort à cause d'égoïsme de ses parents. Elle a préféré partir avec son amant et lui partir dans ses addictions, a-t-il ajouté. Quant à Maître Chloé Bonnat, l'avocate de Céline Vialette, elle assure que sa cliente n'est pas une meurtrière d'enfants. Psychologiquement, il est mort de faim. Il est mort de faim et de soif, mais humainement, il est mort de misère et d'abandon, a-t-elle confié, en dénonçant les ratés et les lenteurs de l'enquête de la justice dans cette affaire. Dans son réquisitoire, l'avocat général Claude de Rennes a demandé aux jurés de suivre le verdict de 1919 et de ne pas faire de distinction de peine entre les parents. La lente agonie de l'enfant est le résultat d'une action non concernée, mais d'une coaction criminelle. Ils les ont une part identique et leur faire un sort différent serait une erreur. Céline Vialet serait aussi dans l'incompréhension de cette dissociation de peine. Elle s'attendait vraiment à être condamnée à une peine égale, ne comprend pas pourquoi elle est plus responsable que lui. Il faut préciser qu'au moment où l'enfant a fait le malaise qui lui a été fatal, Madame V n'était pas présente, à relever son avocate à France Bleu. Un numéro d'appel, le 119, ainsi que le site allo119.gouvernement.fr sont mis à disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour tout enfant ou adolescent victime de violence ou à toute personne préoccupée par une situation d'enfant en danger ou risque de l'être. Donc voilà pour notre petite actualité féminine. Nous allons passer une musique.
Oui, donc alors cette fois je vous place, c'est 9 Kairots de Flying Lotus featuring Toro et moi, pardon, sorti en 2019.
Eh bien on écoute ça. Voici, je vais faire une petite aparté qui vient de m'être donnée sur le site humanite.fr. Violence sexuelle dans le monde de la musique classique. Il est temps d'ouvrir la voie. Pour pas changer. Ouais. Alors on dit bonjour à Madame Coco qui est venue nous rejoindre.
Bonjour tout le monde.
Donc, il nous demandait de venir chanter à côté de lui au piano. Une par une ou deux par deux. Et pendant qu'on chantait, il mettait systématiquement sa main dans notre culotte ou nous touchait pendant le temps de la chanson. Je me rappelle des chansons plaisantes de Jean Basile. Le nom de ce compositeur me dégoûte encore aujourd'hui. Je fixais mon regard sur l'autre main qui jouait seule. À 6 ans, j'étais impressionnée qu'il soit capable d'accompagner d'une seule main. 30 ans après les faits, Caroline Ledru a posté ce témoignage sur Facebook juste avant le confinement. C'était devenu un besoin vital dans cette époque trouble où à l'issue incertaine. Cette femme de 42 ans relate alors sur les réseaux sociaux ses cours de solfège au conservatoire du Mans dans les années 80 et 90. Ma grand-mère en avait fait part à l'association des parents d'élèves. Ils étaient déjà au courant. On ne leur apprenait rien, mais on ne pouvait rien faire. Et comme c'était, paraît-il, le meilleur professeur du solfège du conservatoire, on m'a remise dans sa classe l'année suivante, et encore celle d'après. Plus tard, dans ce même conservatoire, il sera un autre professeur qui essaiera de l'embrasser, de mettre ses mains sur sa poitrine. Nous sommes nombreuses, c'est vertigineux. Aujourd'hui, Caroline Ledru milite dans plusieurs associations féministes, dont l'association HF Île-de-France, qui lutte pour l'égalité dans la culture. À la suite de son poste, de nombreuses personnes lui ont écrit pour témoigner d'un même vécu, d'une même souffrance. Je suis étonnée et en même temps, je sais que nous sommes nombreuses et c'est vertigineux. Caroline enseigne à son tour la musique, mais elle ne chante plus. Le son reste toujours bloqué et, comme beaucoup, elle n'a jamais porté plainte contre ses anciens professeurs. Le silence est toujours de mise contre ces violences faites aux femmes dans le milieu très fermé de la musique classique. Les mâles qui dominent les programmations, les conservatoires, les opéras, les orchestres, n'incitent pas à ouvrir la voie. Dans la deuxième scène, il écarte violemment mes jambes en mettant sa tête sur mon sexe. Durant une autre représentation, il m'a murmuré « J'ai envie de te faire mal, j'ai envie d'y aller ». Chloé Brio. À de rares exceptions près, en mars dernier, la soliste Chloé Brio a porté plainte pour agression sexuelle contre son partenaire baryton dans l'opéra « L'inondation » de Joël Pommerat, créé en octobre 2019 à l'Opéra Comique, puis repris à Rennes et à Nantes en début d'année. En pleine représentation, il a plaqué mon sein droit comme de la pâte à modeler, confie la soprano au journal La Lettre du Musicien. J'ai tenté de me recroqueviller pour qu'il ne puisse plus me toucher. Dans la deuxième scène, il a écarté violemment mes jambes en mettant sa tête sur mon sexe. Durant une autre représentation, il a murmuré « J'ai envie de te faire mal, j'ai envie d'y aller ». Scène, répétition, Chloé Brio témoigne des agressions répétitives, les signale au directeur des différents opéras. Mais le baryton n'est nullement inquiété. Si dans un théâtre deux techniciens se battent, il y a immédiatement mise à pied, remarque Philippe Gauthier dans l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France. Pourquoi face à des violences sexuelles, ce serait compliqué? Nous demandons que s'applique la norme, le droit commun. Le syndicat a réagi en écrivant aux organismes de tutelle et au ministère de la Culture. Lorsqu'un agent public est agressé, il est classique que la tutelle porte plainte, mais pas pour les agressions sexuelles, poursuit le syndicaliste. Nous avons réagi à cette énième affaire dans les maisons d'opéra en France, après Toulouse, la danseuse non embauchée à son retour de maternité à Lyon. Le syndicat et l'interprète ont finalement été entendus le 8 septembre. Roselyne Bachot, ministre de tutelle, a enfin émis un signalement auprès du procureur de la République. Rappelons que dans l'article 40 du Code pénal de procédure, la loi y oblige tout fonctionnaire ayant pris connaissance d'un délit ou d'un crime. Une enquête préliminaire pour agression sexuelle avait déjà été ouverte le 15 mai. Une inquiétante banalisation des relations entre maître et élève. Mais le courage d'une Cléo Brio ou de ses sœurs violonistes de Berthollet, qui ont aussi dénoncé publiquement le sexisme, le harcèlement sexuel et l'emprise des professeurs sur les jeunes élèves, ne résument pas l'ambiance derrière les pupitres. Leur méta y règne. Et pour ouvrir la bouche, l'anonymat est requis. Je suis inquiète pour Chloé Brio, se désole une harpiste. C'est un milieu misogyne, les compositeurs sont tous des hommes, comme les directeurs de salle, les directeurs d'opéra. Ce sont les professeurs qui recommandent, qui donnent du boulot. Si on est mis au banc, c'est très compliqué. Un professeur de conservatoire peut briser votre carrière et vous finissez en jouant dans les soirées de cocktail. J'ai découvert un système, il y en avait 10 comme moi. Son procédé était répétitif, toujours la même façon de faire, d'approcher, de se comporter, de proposer des cours à 21h chez lui, puis d'aller manger quelque chose. Une ancienne étudiante du Conservatoire de Paris. Dans les couloirs de l'enseignement musical, on murmure au mieux des histoires de Pygmalion, au pire de filles violées, de mineurs sous l'emprise de leurs professeurs. En 2015, un rapport de l'inspection générale de la ville de Paris s'en inquiétait, soulignant une banalisation des relations sexuelles et amoureuses entre maîtres et élèves. Emprise et consentement ne sont pas des termes qu'on utilise fréquemment en 2015, mais la mission recommande de limiter les cours individuels et les tête-à-tête, de prohiber les espaces isolés et les recoins susceptibles de faciliter les infractions sexuelles sur mineurs, de rendre les locaux plus transparents et plus visibles pour prévenir les abus. Plus on monte dans la spirale de l'exigence des écoles et des écoles prestigieuses, écrit cette ancienne étudiante âgée de 45 ans aujourd'hui, plus on a affaire à des professeurs en relation avec de très jeunes élèves. Au Conservatoire de Paris, c'est juste hallucinant le nombre de personnes concernées autour de nous. Cette musicienne a dû faire 10 ans de psychanalyse pour se remettre d'une relation amoureuse entretenue à peine adulte avec un professeur 30 ans plus âgé. J'avais une admiration immense pour lui. Dans tout le temps de la relation, j'étais dans un état second. Je ne me reconnaissais pas. Il avait une personnalité écrasante, un niveau de carrière et une position sociale disproportionnée par rapport à l'étudiante que j'étais. Ce n'était pas quelqu'un qui m'aidait. Il appuyait sur mes faiblesses. Elle rompt avec lui quand elle découvre qu'elle n'est pas la seule étudiante à avoir été séduite. J'ai découvert un système. Il y en avait 10 comme moi. Son procédé était répétitif. Toujours la même façon de faire, d'approcher, de se comporter, de proposer des cours à 21h chez lui, puis d'aller manger quelque chose. C'est en découvrant ça que j'ai pu m'en sortir. Les enseignants sont aussi des musiciens hors pair, des chefs d'orchestre prestigieux. L'artiste professeur est rarement mis à sa place ou signalé. Deux choses sont tissées entre elles, le déni sur les violences sexuelles et la figure du créateur, déplore Philippe Gauthier. L'artiste est sacré, on ne lui implique pas la procédure commune. C'est très puissant dans le secteur culturel, comme on a pu le voir avec l'affaire Matt Znef. Ça permet tous les conservatismes. Et une pianiste de raconter, par le hulot, on pouvait voir des professeurs caresser le sein d'une élève pendant qu'elle jouait la sonate. Parfois, il y avait des pupitres pour cacher les vitres. MeToo a libéré la parole. Si pratiquer un instrument implique un rapport privilégié, quasi exclusif entre l'élève et le maître, qui lui fait réviser ses cours dans des salles fermées, les danseuses de conservatoires nationaux de musique et de danse racontent des histoires similaires. Un professeur m'a proposé des cours de danse, contact improvisation dans un autre studio de danse. À la fin du cours, il s'était rapproché de moi. Je n'avais pas de désir physique pour cette personne bien plus âgée, mais je ne me sentais pas dans une situation de refuser les avances d'un professeur que j'appréciais par ailleurs. Au bout de plusieurs mois, à la fin des classes, a permis à cette danseuse de ne plus croiser cet homme. C'est tout le monde de la danse, contact, que j'ai relâché après. Je m'en rencontre aujourd'hui en le verbalisant. Dans les années qui ont suivi, ça ne m'a pas aidé à construire mon estime de moi, car je pensais que je ne pouvais attirer que les vieux mecs. Le mouvement MeToo m'a donné beaucoup de force pour en parler aujourd'hui. C'est reconstituant. Cette libération de la parole doit poser de nouvelles bases pour la génération qui vient. La vague MeToo servira-t-elle de caisse de résonance pour qu'enfin le raffut soit trop fort pour être étouffé ? Parviendra-t-elle à briser le système de réseau verrouillé par les hommes ? Il y a un an et demi, Agathe a créé le site Pétanote, l'un des rares blogs dénonçant les violences sexistes et sexuelles et qui, contrairement aux autres, perdure. Pendant 10 jours sur une tournée, un musicien collait son sexe contre le mien, sa main sur ma poitrine devant tout le monde. J'ai mis 3 jours à réaliser, puis à repousser ce professionnel qui a une grande influence dans le milieu de la musique en France et à l'étranger. Les collègues faisaient pression pour que je me taise pour continuer la tournée. Le soir, je me barricadais dans ma chambre d'hôtel, peur de se griller professionnellement, absence de témoins volontaires pour Agathe, c'était impossible de porter plainte. Elle lance alors sa page, comme une bouteille à la mer, récolte des multitudes de témoignages, chorales absourdissantes, dénonçant le sexisme ordinaire. « Allons la pomper, cette grosse salope !» s'exclame un musicien évoquant la conseillère de musique d'une direction régionale. « Si tu me rejoins dans ma chambre ce soir, je te garantis une place au second tour », propose un membre du jury de 41 ans à une gamine de 16 ans, la veille d'un concours. un continuum de violence, sexisme exprimé sans crainte alors que la loi interdit ces expressions, ces gestes, ces agressions, ces violences. À Dijon, l'impunité un temps s'est arrêtée. Plus de 63 ans, de plus de 23 ans, pardon, après avoir abusé d'une mineure, un professeur de musique en Côte d'Or vient d'être condamné à 4 ans de prison, dont un ferme. Le viol n'a pas été reconnu, le flirt, oui, pour une jeune fille de 14 ans. La justice ne va pas plus vite que la musique. Voilà.
Eh ben.
On n'est pas sorti de l'auberge.
Oui.
Angèle, tu nous passes une musique pour nous un peu rendre un peu de baume au cœur?
Oui, donc alors, cette fois, je vais vous passer The Way You Walk and Move de Zap, sorti en 2002.
Eh bien, on écoute ça.
Allez,
c'est parti. Uh-huh. Aujourd'hui, nous allons parler des légendes.
Oui,
alors... des histoires qu'on racontait pour faire peur.
Ah là là.
Ou pas. Ou pas. Alors, je vais déjà te décrire ce que c'est qu'une légende.
Oui.
Puisque... Donc, une légende est l'adjectif verbal latin de la legenda.
Oui.
Qui doit, donc, ce qui veut dire, qui doit être lu.
D'accord.
Voilà. Est à l'origine un récit mis par écrit pour être lu publiquement. Généralement, il s'agit d'une hagiographie lue dans les monastères pendant les repas, dans les églises, pour l'édification des fidèles lors de la fête d'un saint.
Eh bien, dis donc.
Ouais. Au XVIe siècle s'opère un glissement de sens, la légende devient un récit à caractère merveilleux, où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'invention poétique. Cette évolution résulte de la nécessité devant laquelle se sont trouvés les hagiographes de fournir la matière destinée à alimenter le culte des saints personnages dont ils ignoraient à peu près tout. Dans ce genre de littérature, la précision historique passe ainsi au second plan par rapport à l'intention spirituelle.
D'accord.
Voilà pour d'où vient le mot légende. Le légendaire désigne l'auteur, le compilateur de légendes, mais aussi le recueil de légendes. Le légendier est un recueil de vie de saints sous forme de légendes hagiographiques qui ont plus un rôle liturgique et commémoratif que biographique.
Eh ben dis donc, on fait des choses.
Bah ouais.
C'est pas de ce terme.
Eh ben non, moi non plus, hein, n'est-ce pas ? C'est bien d'apprendre. Ouais. Donc, légende et mythe. Attention, parce qu'on peut penser que c'est peut-être la même chose, mais la légende diffère du mythe. En ce qu'une légende tient de faits réels, une histoire est racontée puis transmise à part orale, d'où les modifications.
D'accord.
Donc, du coup, une légende est peut-être autre avant, mais il y a
des choses se sont raccordées.
Voilà, il y a des gens ont peut-être dû rajouter des choses entre deux. On peut la définir comme un récit qui mêle le vrai et le faux. Donc déjà, le récit fictif dans les légendes, mythes, contes, fables est le plus souvent d'origine orale et fait appel au merveilleux. Une légende est fortement liée à un événement clé. Ceci est précisé et se concentre sur un lieu, un objet, un personnage, une histoire, etc. Au fil du temps, la légende peut évoluer en mythe pour les sociétés futures, car elle perd en précision et gagne en fantaisie et en amplification, et s'oriente vers du mystique. Ainsi, dans une légende, il peut y avoir une partie mythe, comme pour ce qui est d'Héraclès, le héros grec, l'Hercule des Romains.
Ouais.
Déjà, tu vois, c'était pas Hercule, c'était Héraclès. Ouais. Donc, dans le langage courant, les notions de mythe, de légende, de conte et de fable sont souvent confondues. Néanmoins, le mythe renvoie à une histoire inventée pour fonder des croyances dans le monde divin. Faut s'en sortir avec tout ça. L'origine des légendes. Jean-Pierre Bayard, dans son histoire des légendes, énumère une dizaine de théories relatives aux origines des légendes. La théorie anthropologique, soutenue par Henri Geddoes, William Mannhardt et Edward Tylor, postule que les légendes proviendraient des pensées humaines primitives, de restes de religion et culture élémentaire. La théorie astrale et neutraliste considère les contes et les légendes idéologiques comme divinisantes les grandes manifestations de la nature. La théorie mythologique est avancée par Grimm, qui attribue la création des contes à l'enfance préhistorique de la patrie, Angelo de Gubernatis et un naturalisme enfantin. Schelling a la conscience individuelle du peuple qui ajoute aux légendes créer une signification religieuse. La théorie linguistique considère que les légendes sont issues de la tradition de récits entre plusieurs peuples qui emprunt les mots à d'autres cultures, les déforme, ce qui obscurcit le sens primitif originel et donne naissance à de nouveaux récits. Bon, c'est un sacré mélange.
Ouais.
Hein.
C'est retrouvé.
Ouais, en fait, en gros, voilà. On va prendre la légende d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Donc, je vous ai tiré certaines petites belles légendes.
Ouais.
Petites histoires.
On va découvrir, oui.
Ouais, voilà, petites histoires. Donc, c'est. On parle d'un chevreuil, d'un cerf, et enfin, vous verrez bien. Autrefois, la paix régnait entre tous les animaux et tous les hommes de la terre. Tous vivaient sur ce que l'on appelle la grande île. Juste sous le soleil, qui était gardé par la petite tortue. tout allant bien pendant un nombre incalculable de lunes jusqu'au jour où Ra, chez qui loge depuis l'esprit Tao Sake, le mauvais frère, proposa de jouer à qui volerait le plus haut chez les oiseaux et à qui courrait le plus vite parmi les animaux de la forêt. Chevreuil, vexé de ne pas avoir été désigné comme le plus rapide, désirait quitter la grande île et voulait avoir accès au grand ciel bleu car il avait un différend avec l'ours qui lui reprochait son orgueil. En effet, Chevreuil digérait très mal le fait que l'ours, arbitre, ne l'ait pas déclaré vainqueur. Mais la gardienne, petite tortue, ne voulait pas lui ouvrir le passage. Pour réaliser son ambition, il consulta l'oiseau tonnerre qui lui conseilla de monter au ciel en utilisant un arc-en-ciel. Alors Chevreuil attendit le printemps et, suite à la première pluie envoyée par Ignon, il emprunta le chemin tracé par l'arc-en-ciel. Ainsi, il retrouva rapidement au ciel où il fut libre de courir à sa guise. J'ai pas fini. Au bout d'un moment, réunis en conseil, les animaux cherchèrent le chevreuil. Le loup fouilla les bois, alors que le faucon scruta l'azur. C'est alors que tous virent le chevreuil gambadant dans le monde d'en haut avec agilité. Les animaux décidèrent de se rendre au ciel en empruntant le pont de toutes les couleurs. Mais là-haut, la situation se gâta. L'ours reprocha au chevreuil de penser uniquement à lui et d'oublier tous les autres animaux de la grande île. Faisant fi de tout reproche, le chevreuil provoqua l'ours en duel, le combat s'engagea sur le champ. Rapide comme l'éclair, le chevreuil piqua l'ours de ses bois pointus et le blessa à plusieurs endroits. Loup, arrivé sur ses entrefaits, sauva ours d'une mort certaine. Chevreuil s'enfuit alors sans demander son reste. L'ours était gravement atteint et le sang coula avec abondance de ses plaies. Le sang ruissela jusque sur la grande île où les feuilles des arbres se teintèrent de couleur de sang de l'animal. Depuis, chaque automne, les feuilles se teintent de la couleur du premier sang versé sur la terre afin que jamais les animaux n'oublient, comme leurs ancêtres, ont mis fin à la paix, afin que cette histoire serve ainsi de leçon aux hommes. Quant à Chevreuil, le grand esprit l'avait sévèrement puni et lui faisant perdre ses bois tous les ans. Deux lunes après que les dernières feuilles rouges tombent sur le sol, le laissant ainsi sans défense devant le loup, devenu depuis son plus dangereux ennemi. À présent, chaque année, lorsque revint l'automne, la nature commémore le combat du chevreuil et de l'ours et le feuillage des arbres devient rouge. C'est pourquoi, chez les Ursons Wanda, le nom divin du chevreuil est Daeyate, ce qui signifie celui qui, pour lequel l'arc-en-ciel a fait un chemin de couleurs. Selon la tradition, les beautés de l'automne, lorsque la nature meurt, sont source de nostalgie pour les âmes des disparus qui se remémorent leur ancienne demeure terrestre. Même les dieux reviennent habiter la grande île, car l'automne est un temps pour l'esprit. En cette saison, les Pléiades, les étoiles les plus belles, quittent leur pays céleste pour venir habiter le ciel de la grande île. Voilà pourquoi les feuilles sont rouges.
Tout s'explique.
Voilà ce qu'est une légende. C'est cool, hein? Mm-hmm. Bah, c'est bien pour raconter joli, ça. C'est joli. C'est pas tout. Comme c'était dit, comme je l'ai dit au départ, c'est des choses qui sont inventées, il y a une origine, mais alors après laquelle, je ne sais pas. J'en ai une autre, légende d'automne. Donc là c'est suisse, c'est le parc, découvrez le parc de la légende à Lausanne, une promenade en 18 étapes, une légende racontée en braille et en lettres caractères au fil d'une balade accessible aux aveugles, aux malvoyants, mais aussi adaptée aux personnes en mobilité réduite, invite le promeneur à toucher les œuvres et à se laisser inspirer par la magie, la sagesse, je vais y arriver, la joie influencée au bronze avec poésie et finesse. Un îlot tranquille en milieu urbain, de l'art accessible à tous. Plus de 800 personnes, instituts et sociétés ont contribué au financement de cette œuvre de l'artiste Sarah H, remise à la ville de Lausanne en automne 2015. Donc je vais vous conter l'histoire. Dans un temps très lointain, notre planète se nommait Émeraude. Son peuple l'avait appelée ainsi à cause de la couleur bleu-vert que lui donnaient les arbres qui la recouvraient. Ses habitants vivaient en harmonie avec la nature. Ils prenaient un soin immense envers les arbres. Leur cœur vibrait pour ces êtres majestueux. Tous les enfants apprenaient à les écouter, à leur parler, à les soigner. Le magicien du village leur confiait ses secrets. Le plus grand était son amour infini pour la vie. Le magicien, lui, montrait comment concocter la poudre de musique. Cette potion avait un pouvoir magique sur les arbres. Le lieu où se réunissaient tous les magiciens de la terre se trouvait au bord de l'océan. Cet endroit se nommait Méduse. Plusieurs familles y vivaient. Léane et Loïc, deux enfants de ce village, passaient tout leur temps dans la nature. Chaque matin, ils visitaient les arbres de Méduse. Depuis quelques jours, Léane sentait une certaine tristesse envahir les arbres. Avec l'aide de Loïc, elle parsema de poudre de musique les racines de chacun. Mais rien ne fit. Leur mélancolie augmentait de jour en jour et leur vigueur disparaissait. Léane alla trouver le musicien du village qui lui conseilla de parler à Sage, l'arbre le plus vieux de la région. La petite fille marcha toute la journée. À la nuit tombée, elle distingua une ombre majestueuse. Sage se tenait devant elle, sa beauté émut l'enfant. Elle lui demanda la raison de cette tristesse qui envahit tous les arbres. Il se pencha vers Léane et son feuillage lui murmura le secret. Depuis plusieurs semaines, un nuage de glace avançait vers la terre. Si rien ne l'arrêtait, il gèlerait la surface de la planète et anéantirait toute vie. Bouleversée, la petite fille courut rejoindre son ami Loïc et le magicien du village. Des larmes plein les yeux, elle leur expliqua la situation. Loïc ne disait rien. Après une nuit de sommeil agité, les deux enfants se retrouvèrent au bord de l'océan. Plusieurs heures de réflexion firent jaillir une idée qui les enchanta, réunir tous les habitants d'Émeraude à Méduse, pour unir leur souffle afin d'éloigner ce nuage de glace. Le temps pressait, il n'y avait pas assez de coursiers ni de parchemins pour avertir tous les habitants. Léane fit part de son idée à Sage, qui lui demanda de revenir au lever du jour. À l'aube, Léane était devant lui. Un vieil arbre avait consulté ses congénères. Ensemble, ils avaient décidé de donner tout leur feuillage en guise de parchemin pour écrire aux habitants de la planète. Le vent qui les avait entendus leur proposait d'être leur messager et de transporter dans sa course folle toutes les feuilles. Les arbres abandonnèrent leur feuillage, le village se mit au travail, le signe fut écrit sur chaque feuille, puis le vent souffla de plus en plus fort en entraînant ces milliers de messages. Trois lunes plus tard, Méduse était inondée de monde, tout le peuple d'Émeraude était réuni, le magicien leur donna de se grouper au bord de l'eau et de souffler de toute leur force vers le ciel. Le nuage de glace qui pointait au loin depuis plusieurs jours s'éloigna gracieusement sous les yeux inondés de joie de la foule. Une douce chaleur enveloppa la planète et la nature s'éveilla. En souvenir de ce jour glorieux, les arbres perdent leurs feuilles chaque année au premier frisson de l'automne. Et si quelqu'un vous dit que ce n'est qu'une histoire, restez muet jusqu'au premier jour de l'automne, promenez-vous sous les arbres, ramassez délicatement une feuille morte. Si vous observez vraiment attentivement, vous découvrirez le signe qui permit aux habitants d'Émeraude de se réunir pour sauver la planète. Une autre histoire d'automne.
Oui.
C'est mignon, hein.
L'histoire aussi, oui, oui.
Ouais, c'est mignon. André, tu vas nous passer une autre musique?
Oui. Alors cette fois, je vais passer Mongoloid de Divo, sorti en 1980.
Eh bien, on écoute. nous allons continuer avec nos petites légendes.
Oui.
Alors, il y a des légendes parfois bizarres. Donc là, je vais vous le dire encore. Alors là, il y a eu deux petites histoires quand même très sympathiques pour annoncer l'automne.
Oui.
Ce qui était... Et donc là, c'est encore une autre légende. Mais là, du coup, c'est par rapport à un fruit.
Ah bon, après les feuilles, ouais. Le fruit.
Ouais, voilà. Donc, la poire.
La poire.
Le fruit de saison, ouais. On va dire. Voilà. Mais bon, il y a une légende, apparemment.
Alors, ben, quelle est-elle?
Eh ben, je vais vous la dire. Donc, débutons notre voyage par un conte frité et plein d'audace. La récolte des poires a lieu tous les 6 mois de raccourcissement du jour de juin à décembre dans l'hémisphère nord. Il s'agit ainsi d'un fruit que l'on savoure volontiers lorsque les temps froids arrivent. C'est ce qu'une vieille bonne femme aurait bien aimé pouvoir faire dans le conte de la vieille mère misère. L'origine de cette légende est très difficile à trouver, mais une version ancienne datant des années 1800 situe l'histoire au nord de la France, dans la commune de Vic, au bord de l'Escaut, et de quelques kilomètres de la frontière belge. Donc c'est par chez nous.
Ouais.
Donc la tradition voulant que les contes soient transmis oralement, leur source était en général inconnue, ou du moins partiellement pour certains. La vieille mère misère avait déjà vécu tant et tant d'automnes que, dans son ancienne maisonnette construite de travers dans un paysage usé, le monde entier semblait l'avoir toujours connue là. Personne n'avait jamais vu la plus pauvre qu'elle qui vivait de rien, sauf d'un généreux poirier au fond d'un minuscule jardin. L'arbre lui offrait de beaux et gros fruits mûrs et juteux à souhait. Chaque jour, des galopins accouraient au jardin de la vieille mère misère, qui grimpait dans l'arbre et en dérobait la seule richesse. Riant des jambes arthritiques et voûtées de la propriétaire des lieux, il mangeait sans vergogne et haut-perché les poires de la vieille mère misère, qui ne pouvait pas, bien accrochée à sa canne, qui grommelait d'irréalisables menaces à l'attention des garnements. Une nuit d'orage, alors que les éclairs n'avaient de cesse d'illuminer le ciel noir, quelques coups furent donnés à la porte de la massue de la vieille mère misère. « Entrez, entrez donc » cria-t-elle pour couvrir le bruit du tonnerre. Un homme usé, par le temps, passa dans l'embrasure. Il se tenait voûté, le visage tourné vers le sol, une barbe grise et marron, dépassant de la capuche de son manteau élimé. « Ma bonne mère, » dit l'inconnu en saluant la vieille mère misère d'un geste faible de la main, « le voyageur que je suis n'a ni abri ni nourriture en cette nuit agitée. »« N'en dites plus, » répondit la vieille mère misère, « je n'ai que ce toit pendu et ces quelques poires sur ma table à vous offrir. Restez le temps que vous souhaitez, le peu que je possède est à vous aussi bien... que je possède est à vous aussi bien qu'à moi. Le lendemain matin, il ne restait dans le ciel aucun nuage, et les orages faisaient déjà partie des souvenirs. Dans la maison de la vieille mère misère, celle-ci se réveilla et mit plusieurs instants à comprendre ce qu'elle avait sous les yeux. Sa table, si vide d'ordinaire, regorgeait de pain frais, de confitures en tout genre, de paniers garnis, de fruits colorés. Le mystérieux visiteur semblait s'être redressé et avoir retrouvé sa jeunesse d'autrefois. En réalité, il n'était autre que le seigneur des bois, qui traversait la contrée, s'était fait surprendre par la colère du ciel. « Tu m'as offert le peu que tu possèdes, là où de bien plus riches que toi m'ont fermé leurs portes, » dit-il. « Je ne peux que te remercier en t'offrant à mon tour ce que je possède. » « Ma gratitude est infinie, » répondit la vieille mère misère, « mais tout cela ne me permet pas de me nourrir, ne me permettra de ne me nourrir que pour les quelques jours à venir. Que puis-je donc faire pour toi ? Il y en a, mon jardin, un poirier, qui donne chaque jour des fruits juteux à souhait. Toutefois, je n'ai jamais loisir à en savourer, les enfants du village n'ayant de cesse de venir me les chaparder. Pour leur donner une leçon, je souhaite que quiconque monte dans mon arbre y reste coincé jusqu'à ce que je donne mon accord pour mettre pied à terre. Si cela peut te consoler, il leur sera désormais ainsi. Après ses... ouais, attention, petit garnement. Après ses vœux, le seigneur des bois repartit à sa verte forêt. L'après-midi même, les garnements du visage vinrent se servir de poire dans le jardin de la vieille mère Misère. Au moment d'en redescendre, voyant la bonne femme arriver tranquillement jusqu'à eux, les enfants ne purent décoller ni fesses ni cuisses de la des branches nouées. Les larmes et les cris remplacèrent les rires, et ce fut la vieille mère Misère qui s'esclaffa à son tour. Une fois qu'elle jugea la punition assez sévère, elle libéra les petits qui s'enfuirent pour ne plus jamais revenir. Les saisons s'écoulèrent jusqu'à ce que la mort, respectant son calendrier, vint frapper à la porte de la vieille mère Misère. Celle-ci ne fut pas surprise par sa venue. Elle avait parfaitement conscience que son dernier voyage arrivait tantôt. Alors la vieille mère Misère posa son ouvrage, prit sa canne et se leva pour suivre la mort hors de sa maisonnette. Une fois au bout du jardin, elle vit son arbre regorgé de fruits et trouva bien dommage de le laisser ainsi. Elle demanda donc à la mort « Ami, vieille amie, veux-tu ces fruits si beaux? Il serait dommage de les laisser ainsi après mon départ. Veux-tu m'accorder le temps pour régler cette dernière affaire ? Je vais chercher un panier et toi, si grande, rapide que tu es, cherche les poires. » Désireuse de satisfaire une ultime fois cette vieille d'ici-bas, la mort ne discuta pas et escalada l'arbre avec aisance. Mais une fois assise sur la branche, elle ne put revenir à terre. « Bien, dit la vieille mère Misère, te voici ennuyée par la situation. Tout comme moi, j'ai conscience que mon